Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Idowani.
Wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Haloud Mouni.
Chenni Beri.
Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Invités, auditeurs, téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à ce Grand Dialogue qui va parler ce soir du rôle des Nations Unies dans la gestion des crises. L'ONU a-t-elle comblé les attentes? C'est le thème du Grand Dialogue de ce soir. Créée en octobre 1945, l'Organisation des Nations Unies ONU a pour but de consolider la paix et la sécurité dans le monde, de promouvoir et de défendre les droits de l'homme. Elle déploie des forces de maintien de la paix et de la sécurité dans les pays en conflit sur 70 missions déployées sous mandat onusien depuis 1948. 30 l'ont été sur le continent africain. L'ONU a-t-elle pu atteindre effectivement son objectif de maintenir la paix dans le monde? Est-elle toujours crédible aux yeux du peuple du monde? L'organisation a-t-elle besoin d'être réformée? Comment y parvenir? On en saura davantage dans ce Grand Dialogue avec nos invités. Fatoumata Traoré, ancienne volontaire des Nations Unies au Burundi, qui sera au téléphone, Dr Souleymane Diallo, spécialiste en relations internationales, Cheikh Oumar Soumano, spécialiste en diplomatie, paix et gouvernance. À la présentation, je suis Mirana Kilomega, invité, auditeur, téléspectateur. Bonsoir une fois de plus et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
On commence par vous, Cheikh Oumar Soumano, spécialiste en diplomatie, paix et gouvernance. De sa création à nos jours, peut-on se satisfaire du bilan de l'ONU?
Bonsoir Imrana, bonsoir à tous nos téléspectateurs qui nous suivent au Mali et puis à l'étranger, et également à mes co-débatteurs, je dois dire, M. Diallo et Mme Traoré. Alors, la question que vous posez, elle est très pertinente. De mon point de vue, aujourd'hui, chacun peut se faire son idée sur le bilan de nous, des Nations Unies. D'abord, pour nous, les spécialistes, si on regarde les missions qui lui sont assignées dans sa charte, évidemment, il y a quoi se poser des questions. Parce que quand on parle de la préservation de la paix et de la sécurité internationale, je pense que depuis 45 ans, nos jours, si on essaie de voir combien de conflits ont éclaté et combien ont été mal gérés et qui aujourd'hui sont même dépassent, je dirais, les compétences de l'ONU, vous allez vous rendre compte que nous serons tentés de répondre par le fait que le non va beaucoup plus emporter sur le oui. Et ceci étant, il ne faut pas aussi jeter le bébé avec l'eau du bain. Les Nations Unies, c'est un bel instrument aujourd'hui, en tout cas de coopération, et qui mérite d'être revu de faute en comble. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des acquis. Parce que, en tous les cas, si les Nations Unies n'avaient pas été là, certains conflits aujourd'hui ne seraient pas réglés. Et donc, moi, je dirais que nous avons un bilan qui est mitigé. Et aujourd'hui, cela va nécessiter véritablement les réformes qu'il faudrait administrer justement aux Nations Unies. Et l'une des principales réformes, c'est de revoir véritablement le Conseil de sécurité, et en essayant soit de supprimer le droit des veto, ou alors de pouvoir élargir le pays détenteur de ce droit des veto, ne serait-ce qu'en attribuant un droit des veto à un pays africain.
Vous avez dit que les conflits ont dépassé les compétences de l'ONU. En quoi ces conflits ont pu pouvoir dépasser les compétences de l'ONU?
Mais si on regarde le conflit israélo-palestinien, moi je pense qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui n'a pas été fait? Est-ce que finalement on peut espérer que les Nations Unies auront la possibilité de résoudre cela? Pour moi, ça dépasse les compétences des Nations Unies, parce que toutes les résolutions qui sont prises par les Nations Unies, il y a un des protagonistes de ces conflits-là qui n'en a cure, notamment l'Israël. Aujourd'hui, se dit on ne peut rien me faire. Parce que vous savez, quand les Nations Unies, à travers son Conseil de sécurité, prend des résolutions, souvent, on peut obliger l'État en question, l'État qui est visé, d'exécuter la résolution. Ou bien on va lui obliger. Mais malheureusement, on est face à un État qui n'est pas détenteur de droit de veto, qui n'est pas parmi les 5 grandes puissances des Nations Unies, mais qui aujourd'hui bénéficie d'une protection. Donc de mon point de vue, c'est ça qui fait qu'on est en train malheureusement d'assister de façon spectaculaire à des violations flagrantes des droits de l'homme. Et même cette nouvelle attribution qui est la promotion des droits de l'homme qui rentre dans le sillage des Nations Unies aujourd'hui, si on regarde ce qui se passe au niveau du Proche-Orient, on est en droit de se poser les questions. Est-ce qu'effectivement les Nations Unies n'ont pas échoué sur ce coup-là ?
D'accord. Docteur Souleymane Diallo, vous êtes spécialiste en relations internationales. Je vais vous poser la même question. De sa création à nos jours, peut-on se satisfaire du rôle, du bilan des Nations Unies dans la gestion des crises à travers le monde ?
Ok. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à chers auditeurs et chers téléspectateurs et tous les staffs des studios Tamani. En fait, comme a dit docteur mon chef Soumano, en tout cas, on doit se mettre en question par rapport au système des Nations Unies, par rapport au maintien de la paix du système des Nations Unies, vu vraiment la gestion de maintien de la paix, surtout, lui, il a parlé du Proche-Orient. Et puis, voilà, maintenant, moi, je vais parler par rapport à l'Afrique ici. Sur les 70 missions, il y a eu 30 missions vraiment en Afrique. Et sur ces 30 missions, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a seulement 5 missions. Et depuis 2014, il n'y a pas eu recours aux Nations Unies pour faire une autre mission des Nations Unies, une mission de maintien de la paix en Afrique, ici. Là, on doit se mettre en question. Puisque, au vu des situations, on se dit toujours que ça ne va pas. Vraiment, le tableau géopolitique est assombri. Ça ne va pas partout dans le monde. Donc, vraiment, l'ONU doit désormais, en tout cas, changer le fusil d'épaule pour pouvoir se conformer par rapport aux attentes des pays africains et le monde entier, puisque non seulement on voit qu'elle est décriée par les populations, mais aussi par les gouvernements, un peu partout dans le monde. Donc vraiment, ça va de soi que vraiment l'ONU change, en tout cas, d'approche. Voilà, dans ce monde.
Vous avez dit que depuis 2014, il n'y a pas eu de recours aux Nations Unies pour intervenir et maintenir la paix dans le monde. Alors, concrètement, qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans le rôle de maintien des Nations Unies pour ne pas être appelé à maintenir la paix dans les pays en conflit ?
Tout d'abord, le terme même maintien des Nations Unies, le terme ne va pas avec le système, en tout cas avec les approches d'aujourd'hui, puisque s'il n'y a pas la paix, comment maintenir la paix? Donc vraiment, il faut aborder, en tout cas, il faut amener d'autres démarches pour pouvoir convaincre, séduire, en tout cas, les populations et les gouvernements. Il faut voir, les casques bleus ont été vraiment jugés un peu partout par rapport à leur système. Par rapport, en tout cas, d'aucuns ont dit que vraiment ils ont été, en tout cas, visés à tort. Par exemple, au Congo, 3 civils ont été assassinés. Donc là, vous voyez, ça veut dire que la population rejette ce système-là. Quand vous partez au Centrafrique, là-bas, bon. Les Nations Unies ont été confrontées, la mission de maintien des paix, les casques bleus ont été confrontés à beaucoup de problèmes. D'aucuns ont même eu à dire, certains experts, que, comme on appelle, la mission est de messe avec les groupes rebelles. Voilà. Donc, quand vous venez au Mali, on voit qu'au Mali, ici encore, la mission a échoué. Elle a échoué comment ? Vit vraiment son approche avec la population et puis avec le gouvernement. Quand, comme on appelle, les putschistes sont venus au pouvoir, automatiquement, ils ont dit, OK, il faut quitter le territoire sans délai. Donc, ça veut dire qu'il y a eu quelque chose au préalable. Ça, c'est quoi? Par rapport au mouvement même des forces maliennes, les forces ont été contraintes de ne pas survoler leur territoire. Donc, tout ça, c'est des problèmes vraiment qui sont survenus et puis ont été décriés ici, même par la population. D'aucuns ont dit qu'ils sont, en tout cas, la mission, c'est la mission de la France, en quelque sorte, puisque c'est la France qui veut vraiment la division du Mali. Donc, voilà. Donc, elle a été décriée un peu partout. Le tableau géopolitique est très sombre. D'accord. Voilà. Mais comme il est si bien dit, encore, la mission a eu vraiment des atouts aussi. Il faut vraiment, en tout cas, nous, les populations ont eu des atouts, qu'il faut vraiment le dire. La mission des Nations Unies, à sa création, a aidé les pays africains à accéder aux indépendances. Voilà, il ne faut pas oublier cela. Et puis, il y a d'autres institutions au sein des Nations Unies qui opèrent dans le sens du développement, dans l'humanitaire, dans beaucoup d'autres domaines de la coopération internationale, vraiment qui aident les populations. Mais quand même, la force du maintien de la paix, c'est à revoir. C'est à revoir.
D'accord. Madame Samake, Fatoumata Traoré, vous avez eu à travailler dans le système des Nations Unies au Burundi. Comment se fait, selon vous, le travail du système des Nations Unies dans le maintien de l'ordre et de la sécurité?
Merci beaucoup, Ivana. Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent en ce moment. Voilà, je pense que la mission des Nations Unies, c'est tout d'abord de maintenir la paix et la sécurité internationale. Donc, de ce fait, elle a un rôle primordial dans le maintien de la paix dans pratiquement tous ces pays pauvres et même à travers le monde. Donc, ce qui veut dire que finalement, quand on regarde un peu ce qui s'est passé en Afrique, et vu, vous l'avez même dit en introduction, que la plupart des missions sont déployées en Afrique. Et cela prouve à suffisance que les conflits sont beaucoup plus récurrents dans cette zone-là. Mais quand on regarde l'architecture de la mission, disons, des différentes missions qui sont déployées et même l'architecture même des Nations Unies, on se rend compte que l'Afrique n'a qu'une part infime dans la gestion des conflits. Alors, on peut se poser la question, est-ce qu'on doit raser la tête de quelqu'un en son absence, comme en atteste par exemple le fait que l'Afrique, moi je dirais même pas l'Afrique, est-ce que les pays africains ont un droit de veto au sein du Conseil de sécurité? Mais non, ils n'en ont pas. Et à chaque fois, on essaie de faire comme si le continent africain était un seul pays. Ça, c'est déjà un problème au sein du système des Nations Unies. Le fonctionnement du système des Nations Unies également a des ténors. Les ténors, ce ne sont que les grandes puissances qui dirigent presque tout au sein de ce système. Alors, on peut valablement comprendre cela parce que c'est eux qui, ce sont ces puissances-là qui financent pratiquement toutes les opérations de maintien de paix au niveau international. Donc, on peut également se demander qu'est-ce que ces puissances-là y gagnent. Donc, c'est là que je vais essayer de répondre à votre question. Pourquoi comment fonctionne le système des Nations Unies et comment s'opère justement ce maintien de la paix au niveau de nos pays? Bon, il faut savoir que le système des Nations Unies a deux grands volets. On a les missions de maintien de la paix, on a les autres missions spécialisées, qui sont composées des agences spécialisées des Nations Unies, genre CNUD, FAO, UNICEF, UNFPA et autres. Par contre, les missions qui sont déployées sont des opérations de maintien de la paix. Ça n'arrive que quand le pays est en crise. Et c'est pour ça qu'on peut valablement laisser partir une mission sans pour autant chasser, par exemple, les agences, les structures spécialisées des Nations Unies. Alors, ayant travaillé, en tout cas, au sein d'une mission de maintien de la paix au Burundi, ça s'appelait le Bureau intégré des Nations Unies au Burundi, donc BINUG. Donc, j'ai pu comprendre un peu comment se passe justement, comment fonctionne déjà au niveau de ce pays-là, cette mission-là. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, souvent, la façon dont, ou bien on peut dire l'approche qui est utilisée pour gérer les conflits, souvent n'est pas du tout adaptée à nos réalités et à nos situations. En tout cas, c'est le constat majeur que j'ai pu retenir de cette mission.
D'accord. Beaucoup des interrogations ont été soulevées par vos co-débatteurs dans la compétence des Nations Unies à faire face aux conflits armés. Est-ce que vous partagez cette analyse selon laquelle les conflits ont dépassé les compétences certains conflits ont dépassé les compétences des Nations Unies?
Bon, ça peut voir ainsi comme si ça a dépassé les compétences, mais normalement, ça ne devrait pas dépasser les compétences des Nations Unies, parce que c'est quand même 193 pays, et c'est aussi parce que c'est disons, les Nations Unies est une organisation unique au monde en matière de maintien de la paix et de la sécurité mondiale. Et c'est vraiment une institution qui a les ressources nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité mondiale, parce que justement, toutes les grandes puissances en font partie. Donc normalement, ça ne devrait pas poser un problème, ça ne devrait pas dépasser ses compétences. Mais je comprends aussi pourquoi on dit que ça dépasse ses compétences, parce que, vous savez, une institution est financée par des États ou par, en tout cas, d'autres institutions. Et il se trouve que les Nations Unies sont financées justement par les grandes puissances qui, quand même, ont un droit de regard sur tout ce qui se passe, décident, gèrent, contrôlent tout ce qui se passe. Alors, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. Donc, nous autres pays africains, pour qui d'ailleurs on pense avoir fait de la charité en maintenant un système qui leur permet d'intervenir à tout moment, souvent on se trouve vraiment dans des situations où on n'a pas voix au chapitre. Donc c'est pour ça que nous constatons sur le terrain qu'il y a un échec total de certaines missions de maintien de la paix. Plutôt que de maintenir la paix, au contraire, on voit que ça attise un peu les conflits. Au Burundi, par exemple, je me souviens, la plupart du temps, quand tu regardes les manifestes qui sont faits et les informations qui sont données tous les jours, même par le Bureau intégré des Nations Unies, on fait le monitoring des violences, des tueries qui se font à longueur de journée, et c'est reporté au niveau, disons, quand on va dire, au siège des Nations Unies à New York. Et ce reporting-là, on ne se contente que de faire cela souvent. Mais vous allez voir que le Bureau intégré des Nations Unies est là pendant que le personnel des Nations Unies quitte leur maison en Prado et tout, et dépasse des morts qui longent à peu près le bord du lac en partant au travail. Et ça se passe à longueur de journée. Et on voit que la mission est impuissante vis-à-vis de cela. Alors, l'accent est mis sur quoi? L'accent est mis sur la sécurité du personnel plutôt que la sécurité des populations. Ça, c'est un constat que j'ai fait, par exemple.
D'accord. Cheikh Oumar Soumanou, de la création de l'ONU à nos jours, est-ce qu'elle est arrivée à mettre fin à des conflits dans certaines parties, dans certains pays où elle intervient?
Alors, déjà, ce qui est important de noter, c'est que la paix, c'est un processus. Un long processus où on parvient à la paix, on parvient à la pacification. Donc, on fait un grand chemin. Mais dès qu'il y a un poste de tension, on va considérer qu'on repart le plus bel. Donc, il faut porter un jugement qu'elle a carrément mis fin à certains conflits. Je dirais que ça, peut-être cette analyse, je vais plutôt mettre un bémol. Je dis qu'elle aura fait beaucoup d'efforts pour essayer autant que faire se peut de faire taire les armes. Je préfère cette formulation. En revanche, le problème aujourd'hui de Nations Unies, c'est qu'on se retrouve face à une organisation qui a pratiquement les mêmes compétences qu'un État. Pourquoi? Quand on regarde la vocation première des organisations internationales, la vocation universelle, il y a toujours le principe de la spécialité. Ça veut dire qu'elles doivent se dire, c'est dans ce domaine uniquement que j'interviens. Mais sauf qu'avec les Nations Unies, les domaines qui seraient un domaine spécifique pour elles et qui seraient, qui va la différencier des États qui sont dotés de la généralité de compétences, c'est que ce domaine spécifique, sa mise en œuvre va pratiquement toucher à tout. Voilà pourquoi aujourd'hui, les Nations Unies, quand on parle d'état d'urgence sanitaire, les Nations Unies, on les voit là-bas. Quand on voit les catastrophes, on les voit là-bas. Quand on parle d'éducation, on les voit là-bas. Parce que justement, Fatmata l'a dit, il y a des organes spécialisés, l'UNICEF, l'ONU, l'OMS, etc., qui interviennent sur des domaines régaliens de l'État. Donc ça fait qu'aujourd'hui, les Nations Unies, dans sa forme initiale, peut toucher à tout. Autre problème aujourd'hui auquel on ne peut être confronté par rapport aux Nations Unies, c'est que Déjà, elle a décidé de laisser dans la main de 5 pays la gestion de la sécurité. Donc c'est leur vision qui gère la sécurité. Et si déjà cela est reconnu, légalement, ça pose un problème. Ça veut dire quoi ? Est-ce que certaines puissances ont intérêt qu'il y ait la pacification quelque part ? On se pose la question. Parce que si vous regardez beaucoup de reproches...
Donc c'est ce qui fait, selon vous, que l'ONU n'arrive pas à mettre fin à des conflits dans certaines parties du monde, comme en Afrique ou au Moyen-Orient.
Oui, en général, quand on regarde, quand on essaie de faire un bilan et qu'on lui, on voit tous les reproches qui sont faits aux Nations Unies par rapport au problème de la gestion justement de certains conflits, les premières remarques ou les premières critiques qu'on lui adresse, déjà, on parle d'instrumentalisation. On va taxer l'ONU de l'instrumentalisation. Et pour paraphraser le président Charles de Gaulle, hein, qui disait que les Nations Unies, c'est un machin de gommé, lui-même, il a dit en 1945 que c'est un machin. Et malheureusement, il y a cette posture que les Nations Unies n'ont pas encore pu laisser. Et encore, on parle du principe, le droit international, c'est le rapport des forces. Aucun État, aussi fort soit-il, quand bien même viendra à violer les textes, ils ne vont jamais le dire. Ils vont dire non, ils vont toujours essayer de légaliser leur action. Mais en fait, il y a une violation derrière. Et autre chose, pour vous dire qu'il y a une espèce de géométrie variable en matière de gestion des conflits, prenons le cas du terrorisme aujourd'hui. Vous allez voir qu'il y a un principe qui permet que les Nations Unies ont intégré, en fait, qui permettent aux États de recourir à la force à travers ce qu'on appelle le principe de la légitime défense. Le chapitre 7 le prévoit. Mais on dit, quand on parle de recours, dès qu'il y a question de terrorisme, on interdit aux États de parler de légitime défense collective. Alors qu'il y a certains pays, dont les moindres, et qui détiennent véritablement le droit des veto, qui, lorsqu'ils ont été attaqués, ont recouru à la force. Pourtant, on était en face d'une situation de terrorisme. Donc, tout ceci aujourd'hui fait que les gens se posent des questions. Mais je comprends. Parce que si quelqu'un perd de vue la nature du droit international qui est posé sur le rapport des forces, même s'il y a une espèce de moralisation des actions des États en faveur de ceux qui sont moins forts, on va toujours peut-être se dire, ah, finalement, on essaie de comprendre, il y a toujours ce sentiment qui a deux poids, deux mesures. Et c'est ce sentiment de deux poids, deux mesures qui fait que beaucoup de populations, surtout africaines, rejettent les actions des Nations Unies. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, ce n'est pas que tout est mauvais. Il y a des actions, salutaires qui ont été posées, qu'on pourrait aussi évoquer peut-être dans...
Vous avez dit que l'ONU joue presque le même rôle qu'un État. Et cela m'en va vous poser la question sur le rôle des Nations Unies. C'est-à-dire que les objectifs des Nations Unies sont suffisamment expliqués, connus de tous.
Alors, quand j'ai dit qu'il y a un débordement du plan de but compétence, c'est factuel. C'est pas dans le droit, en fait. Parce que quand on dit tout de suite, vous avez dit, d'entrée de jeu, vous avez parlé de maintien de paix et de la sécurité. Mais sauf que cette mise en œuvre va amener les Nations Unies à être sur tous les terrains. Je vous ai parlé du cas de la santé, je vous ai parlé du cas de l'éducation, je vous ai parlé du cas de l'emploi, je vous ai parlé du cas de l'environnement. Et les Nations Unies ont des embranchements. Elle a des organes spécialisés dans tout ça. Donc, au départ, quand on essaie de comprendre le principe de la spécialité, ça voudrait dire que vous prenez une seule action que vous menez. Mais si vous vous retrouvez partout, il n'y a plus de différence entre vous et un État. Parce que c'est l'État qui, aujourd'hui, d'ailleurs, en matière, sur le plan théorique, la première différence qu'on fait entre les organisations à caractère universel et les États, c'est ce principe de spécialité. Alors que l'État, lui, il est investi des missions générales, en fait. L'État intervient dans tout, sans s'auto-censurer. Or, en général, une organisation internationale, aussi forte soit-elle, va se dire, moi, voilà les actions que je vais mener, limitativement énumérées. Mais qu'est-ce qu'on voit dans la pratique, sur les faits, sur le terrain ? C'est pas mauvais en soi, hein. Moi, je dirais que c'est pas mauvais. Au contraire, ça donne une certaine expertise, parce que c'est plusieurs nationalités sous le coup de fonctionnaires internationaux qui vont travailler sur une question assez essentielle. Quand il y a eu la question de la Covid, c'est l'OMS qui s'est mis en avant. Mais l'OMS, c'est une organisation spécialisée des Nations Unies. Quand il y a aujourd'hui la question de l'éducation, de la culture, l'UNICEF gère, mais sous la coupe de la Nations Unies. Donc, vous voyez déjà qu'en soi, ce n'est pas mal. Parce que dans tout le cas, tous ces États également souverains se retrouvent dans ces organisations internationales. Donc, finalement, on a assisté à une espèce d'élargissement de fonctions factuelles des missions initiales des Nations Unies.
D'accord. Docteur Souleymane Diallo, qu'est-ce qui fait, selon vous, que l'ONU n'arrive pas à mettre fin au conflit, principalement en Afrique ?
Effectivement, je vais faire recours à ce qu'il vient de dire. C'est par rapport toujours au droit de veto, parce qu'il n'y a que 5 États qui détiennent le droit de veto. Maintenant, ne serait-ce que vraiment on élargisse ces droits de veto, à accéder certains États à ces droits. Donc là, ça va faciliter les choses. Puisque quand c'est les 5-là, les 5 vont toujours essayer de mettre pression sur les autres. Voilà. Est-ce que ces 5-là aussi veulent qu'il y ait la paix dans ce monde-là? Est-ce qu'ils n'ont pas vraiment leur intérêt dans les conflits? Là, c'est à voir. Donc, il y a des faces cassées. Voilà.
Pourquoi l'Afrique n'a toujours pas de siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, selon vous?
Effectivement, l'Afrique a réclamé, en tout cas c'est dans les questions.
Réclamé 2 sièges.
Voilà, 2 ou 3 sièges même. Voilà. Maintenant, l'ONU, en tout cas, ils sont en train de discuter vraiment là-dessus pour pouvoir donner 3 sièges à l'Afrique. Voilà. Mais c'est quand même intéressant. Même si on a des sièges, si on n'a pas de droit de veto, là c'est un problème encore. Puisque c'est le droit de veto qui permet à un État de voter la résolution. C'est par rapport aux résolutions que les maintiens de la paix sont effectués. Si la résolution va à l'encontre du système, du système de gestion des conflits sur le terrain, ça veut dire qu'il n'y aura pas de paix. Donc, c'est ça, en quelque sorte.
Mais est-ce que vous estimez que l'ONU est sincère avec le continent africain?
C'est ce que je viens de dire tantôt. Est-ce que ces 5 grands, ces 5 puissances-là, voilà, ont intérêt à ce qu'il y ait la paix dans ce monde? Puisque souvent, on se demande, on se dit que les ventes d'armes, hein, ces pays-là peuvent gagner par rapport aux armements et autres. Voilà. Donc, beaucoup, par exemple, les fonctionnaires qui viennent ici, hein, en tout cas qui sont déployés, ça va en tout cas diminuer le chômage un peu chez eux et puis partout dans le monde. Donc, il y a tous ces facteurs-là qu'il faut vraiment évaluer. Est-ce qu'ils ont leur intérêt à ce qu'il y ait la paix? Désormais, il faut que l'approche change.
D'accord.
En commun accord avec les États.
Fatoumata, vous avez parlé de la place limitée de l'Afrique dans les instances de décision au niveau du système des Nations Unies. Quelles sont donc les conséquences de l'absence de l'Afrique parmi les membres permanents du Conseil de sécurité?
Je pense que les conséquences sont connues, hein. C'est que les Nations Unies n'arrivent pas à mettre fin à la guerre et au conflit en Afrique. Donc, ça, c'est une conséquence immédiate. L'autre conséquence aussi, c'est le fait que c'est l'Afrique qui a toujours été le théâtre des grands conflits et des grandes crises dans le monde, et où également il y a le plus de missions, le plus de résolutions votées pour intervenir et le plus de casques bleus déployés. Et ça, c'est vraiment des conséquences. Je peux aussi citer une autre conséquence, c'est le fait que, par exemple, si l'Afrique n'est pas présente au Conseil de sécurité de l'ONU, cela quand même nous renvoie un message. Ça veut dire qu'on estime que l'Afrique n'a pas voix au chapitre, alors que les États, en tout cas selon les principes du droit international, les États doivent être traités de la même façon. C'est ça même l'idée qui est prônée au sein du système des Nations Unies. Donc il y a une certaine égalité du droit des États, des pays qui sont membres du système des Nations Unies. Un exemple frappant en est que le Mali quand même a soumis une doléance aux Nations Unies, on peut dire même que depuis plus d'une année maintenant, et jusqu'à présent, on n'arrive pas à trancher au sein sein du Conseil de sécurité. Donc l'absence de l'Afrique, c'est la théorie du CSD, et cela n'est pas du tout favorable à l'Afrique dans la mesure où nous sommes les premiers à être victimes de toutes ces crises et nous sommes aussi dans des conflits permanents où nous n'avons pas de marge de manœuvre, par exemple, pour décider de la fin de ces conflits-là. Mmh. Donc, je pense qu'un de mes débatteurs avait aussi souligné le fait que, par exemple, une fois qu'il s'agit de terrorisme, la donne change. Et pourquoi cela devrait s'appliquer à l'Afrique? Je pense que les États, normalement, ont quand même le droit de défendre leur territoire, ont le droit de faire en sorte que les populations, la vie des populations et leurs biens soient protégés. Ça, c'est reconnu même par le droit international.
D'accord.
Mais vous voyez, ça, c'est déjà un antagonisme qui est là, et dont personne ne cherche une solution, mais qui a quand même un impact significatif dans la vie des Africains. Dans la vie des personnes qui sont victimes de ce conflit à travers le monde.
Mais est-ce que les demandes de plus en plus récurrentes des dirigeants africains d'avoir un siège permanent peuvent faire effet?
Ça doit faire effet parce que je pense qu'aujourd'hui, les Nations Unies même ont conscience du fait qu'elle a échoué. Essayer dans le sens que, c'est-à-dire que les missions de maintien de paix n'arrivent pas à apporter l'effet escompté. Donc toutes ces démarches des chefs d'État africains pour obtenir un siège, en tout cas, sont valables et ça se justifie d'une certaine manière. Sauf que là où je trouve un problème, c'est que au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, ce n'est pas les continents qui sont représentés, c'est plutôt des États qui sont représentés. Alors pourquoi l'Afrique doit être considérée comme un seul État? Parce que c'est ce que je vois un peu dans la façon dont on aborde les questions de l'Afrique, alors que l'Afrique est une mosaïque de structures, de situations différentes, complexes, qu'il faudra gérer différemment aussi pour qu'on puisse avoir un impact réel.
D'accord. Au regard de ce que vous dites, est-ce à dire que l'organisation a besoin d'être réformée?
Bien sûr, bien sûr. Il y a une remise en cause totale du fonctionnement même du système des Nations Unies. Il y a une remise en cause des missions, c'est-à-dire des activités réalisées par ces missions de maintien de la paix à travers le monde, que ce soit en Afrique ou ailleurs. Par exemple, si on regarde le cas africain, rarement une mission de maintien de la paix arrivait à mettre fin à la guerre, au conflit. On a des missions de maintien de la paix qui ont fait plus de 20 ans. Ce n'est pas normal. En plus, le mot maintien de la paix même.
Comme en RDC?
Comme en RDC, par exemple, donc Monusco, et où réellement on ne voit pas le bout du tunnel. Et je pense que c'est ce que le Mali a voulu éviter en demandant à la mission d'arrêter immédiatement son intervention. Je pense qu'on ne voudrait pas aller à ce scénario.
D'accord. Dans vos mots d'introduction, vous avez parlé de réforme de Nations Unies. Comment parvenir à cette réforme, selon vous?
Mais déjà, je pense que les prémices de cette réforme ont été déjà énoncées dans le rapport de Robert Badinter, un excellent ministre de la Justice en France, qui déjà a reconnu ça depuis dans les années 1970. Déjà, par contre, je vais rebondir un peu sur les propos de celle qui m'a précédé pour dire pourquoi il faut considérer l'État, l'Afrique comme étant un État dans ce contexte. Vous savez, aujourd'hui, quand on va demander à l'Afrique, aux États africains, de désigner un représentant aux Nations Unies, ça va être très compliqué. À chaque fois que cela a été, les antagonismes, etc., on parle
de
rapport.
Mais pourquoi pas un des pays des Africains, oui. Parler des États au lieu de parler du continent africain?
Oui, c'est ça que j'ai dit. Moi, je pense que le plus simple, c'est de mettre l'Union africaine qui représente l'ensemble des... Parce qu'en tous les cas, on ne trouvera qu'une seule voix pour le moment. Et ça, c'est quand même, même si CEDAR doit intervenir, c'est une voix. Et moi, je pense que pour éviter tous les problèmes à la désignation d'un État, parce que les critères de choix, il faut réfléchir à ça et tout ça. Donc, si, supposons tout de suite qu'on nous demande de désigner quelqu'un, le plus simple, c'est de désigner le continent, le représentant du continent qui, à travers l'Union africaine. Ça, c'était soi-disant en passant. Maintenant, pour moi, aujourd'hui, les réformes, c'est quoi? Vous savez, quand vous regardez les gros contributeurs, certains gros contributeurs sont absents, qui n'ont pas de siège permanent. Je parle du Japon, je parle de l'Allemagne, par exemple, la Turquie, tout ça. Ça leur ferait plaisir de pouvoir intégrer ce cercle très restreint. Mais si vous voyez que l'Allemagne, qui par ailleurs est la première puissance de l'Europe, n'est pas parvenue à se faire entendre, à avoir ce siège, ça veut dire que, encore une fois, pour le cas de l'Afrique, ça va être très compliqué. Donc le plus simple pour moi, la réforme qui va amener les pays à être tous égalitaires, celle qui m'a précédé l'a dit, pour moi, si on croit à cette égalité entre les États, contexte actuel des Nations Unies, moi je pense que ça c'est une gageure. Il ne faut vraiment pas croire en cela, parce que le fait même qu'il y a certains qui détiennent le droit de veto, d'autres n'en détiennent pas, ça c'est problématique. Elle-même, et l'Afrique, elle a parlé d'un problème, d'un dossier du Mali qui ne parvient pas à bouger, ça c'est d'exemple. Maintenant, ce que je vais proposer, très rapidement, moi je proposerais purement et simplement la suppression du droit de veto. Ça c'est déjà la première des choses à laquelle il faut s'attaquer. Parce que quand on supprime le droit de veto, en ce moment, c'est en ce moment qu'on peut dire que le fait que les États sont égaux en droit devient réel, devient effectif. Mais dès l'instant qu'il y a certains qui ont le privilège d'avoir ce droit de veto, d'autres non, je ne sais pas, en tout cas moi je ne croirais pas au fait qu'il y a une égalité. D'accord. La deuxième chose aujourd'hui, c'est quoi? C'est de recentrer les missions des Nations Unies. J'ai dit qu'il y a eu un débordement factuel à travers toutes les questions dont se saisissent les Nations Unies. J'avais cité un certain nombre, je vais rajouter l'agriculture, les questions de climat, etc. C'est les Nations Unies qui sont au premier rôle, qui jouent le premier rôle. Donc ça fait trop pour elles. Prenons seulement nos organisations sous-régionales. Qu'est-ce qu'on a pu reprocher à la CEDEAO? C'est parce que la CEDEAO a voulu avoir beaucoup de choses en même temps. C'est ce qui fait qu'elle n'est plus efficace. Donc pour l'efficacité des Nations Unies, en plus de ce que j'ai proposé, la suppression du droit de veto, je proposerai également qu'elle puisse se recentrer sur des choses qu'elle pourrait véritablement gérer avec efficacité. Mmh. Et troisième et dernière chose, c'est de dire aujourd'hui que les Nations Unies doivent tirer les enseignements de ce qui n'a pas marché. Par exemple, aujourd'hui, elles doivent, pour moi, revoir même la prévention, parce que les missions des Nations Unies qui sont déployées ne vont jamais se mettre du côté. En général, elles ne sont pas là pour défendre un pays qui a été agressé. Elles sont là, soi-disant, pour jouer le tampon, pour éviter le conflit. Alors que, dans tous les cas, il y a souvent un agressé et un agresseur dans ces conflits-là. Donc il faudrait en ce moment que les Nations Unies aussi puissent se mettre dans sa posture de pouvoir défendre le droit.
Vous gardez toujours la parole, mais comment l'Afrique doit-elle exiger son droit à une représentation égale à l'architecture de gouvernance mondiale?
Oui, vous savez, déjà, quand on regarde, même en Afrique, les Nations Unies ont 5 interlocuteurs. Il y a la CEDEAO, il y a la CEMAC, il y a la SADC, il y a le COMESA, et puis il y a la CAC. Voilà les 5 interlocuteurs qui vont d'abord faire le premier travail de résolution des conflits. Donc déjà, les Nations Unies ont reconnu ces structures-là, qui sont toutes celles de l'Union africaine. Et à travers ce qu'on appelle le principe de la subsidiarité. Donc si on veut être conforme pour éviter des problèmes, soit on demande 5 représentants, comme ça, chaque région du monde va désigner une. C'est beaucoup plus simple, et ça c'est très compliqué, parce que des États aussi forts, comme j'ai indiqué, le Japon, etc., n'ont pas, malgré qu'ils soient des contributeurs importants, n'ont pas pu quand même avoir ce droit de veto. Maintenant, ce que je déplore aussi par rapport, c'est ce manque de consensus au niveau des pays africains. Et moi, je voyage beaucoup, je participe à beaucoup de colloques, je voyage à beaucoup de rencontres. Mais à chaque fois qu'il est question de désigner les représentants de l'Afrique,
Ça pose problème.
Ouais, ça pose problème.
En termes de réforme, il propose en premier lieu la suppression du droit de veto. En dehors de cette suppression du droit de veto, quelle autre réforme faudrait-il en plus du Conseil de sécurité?
Tout d'abord, je vais souligner un côté là, par rapport à la mission de maintien des paix. Seul le secrétariat des Nations Unies gère les missions de maintien des paix. Les autres institutions ont leur rôle, par exemple l'humanitaire et autres. Voilà. OK. Par rapport à la suppression des droits de veto, oui, j'en suis d'accord, très d'accord. Ça, c'est une solution. Ça, c'est une solution. Maintenant, ne serait-ce qu'on s'asseye avec, par exemple, s'il y a des futures missions, de s'asseoir avec les États et de, en tout cas, retracer, en tout cas, le nouveau chemin de la mission. C'est ce qui est vraiment à faire. Parce que quand les États n'ont pas la même mise dans la procédure ou même dans le processus de maintien de paix, c'est que les États vont, en tout cas, les missions vont faillir. Voilà. Ça, c'est une deuxième proposition. L'autre proposition, c'est quoi? Vous avez souligné tantôt des sièges, d'augmenter le nombre de sièges. Ça, c'est une autre solution. Non seulement le droit de veto, le nombre de sièges. Et puis, lui, il a proposé un côté, par exemple, donner ça à une institution comme l'Union africaine. En tout cas, l'Union africaine peut représenter, en tout cas, les États africains. Sinon, rester comme ça, sans représentation, ça veut dire qu'on donne notre destin ou même notre destinée à d'autres pays. Est-ce que ces pays-là sont vraiment avec nos intérêts? On ne sait pas.
D'accord. Mais selon vous, l'ONU est-elle toujours influente malgré les changements géopolitiques et les nombreuses crises?
L'ONU est toujours influente. Comme on a dit tantôt, l'ONU n'opère pas dans un seul domaine. L'ONU opère dans le domaine de la paix et la sécurité et les autres institutions opèrent dans d'autres domaines. Donc ces domaines-là sont très sollicités que le domaine de maintien de la paix et la sécurité. Voilà, puisque quand il y a la famine dans un État, la FAO, FAO vient pour intervenir dans ces domaines. Quand il y a les enfants qui sont là, malnutris et autres, l'UNICEF vient au recours. Donc, vous voyez, il y a une multitude d'institutions spécialisées qui sont là pour gérer d'autres situations. D'accord. Donc, l'ONU est toujours sollicitée.
Il nous reste 2 minutes et on donne le temps de ces 2 minutes-là à Fatoumata de conclure. Fatoumata, on a parlé des injustices contre l'Afrique. Comment, selon vous, peut-on corriger les injustices contre l'Afrique?
Donc, je pense que c'est possible de corriger cette injustice. L'ONU doit demeurer une institution impartiale, comme les textes le disent. Et l'ONU doit également chercher à comprendre les dynamiques qui sont en train de s'opérer actuellement en Afrique et être en phase justement avec ces pays africains qui sont en quête de souveraineté, qui sont en quête de devenir un meilleur avenir. Je pense également que l'ONU doit faire en sorte que les États africains aient voix au chapitre, quelle que soit leur situation sociopolitique, humanitaire, culturelle. Cela est extrêmement important et c'est les textes et c'est l'éthique même du système des Nations Unies qui le demande. Donc je pense que l'ONU n'a qu'à appliquer ses propres textes et une fois que ces textes-là sont bien appliqués, l'Afrique peut y trouver son compte.
Vous avez parlé de ce que l'ONU doit faire. Comment l'Afrique, qui compte plus d'un milliard d'habitants, doit agir pour que l'ONU soit pragmatique? Vous avez parlé plutôt de ce que l'ONU doit faire, mais l'Afrique qui compte plus d'un milliard d'habitants, comment doit-elle réagir pour que l'ONU soit pragmatique?
Je pense que l'Afrique doit rester unie. L'Afrique doit, c'est dans l'unité qu'on peut évoluer. Parce que en réalité, l'Afrique, comme on vient de le dire tout de suite, souvent, le problème, c'est qu'il y a toujours des voix discordantes quand il s'agit de faire un choix par rapport, par exemple, à un pays qui doit utilisée au niveau du Conseil de sécurité ou d'autres situations. Donc je pense que l'Afrique doit rester unie, mais l'Afrique doit être aussi intransigeante par rapport à certaines questions, notamment les questions de sécurité. En réalité, nous sommes le continent le plus touché et à ce niveau-là, nous devrions être les continents qui doivent être le mieux consultés, le continent qui doit être le mieux occupé par le système des Nations Unies.
Merci Fatoumata. C'est sur ce mot que prend fin ce grand dialogue qui réfléchit sur le rôle des Nations Unies dans la gestion des crises. L'ONU a-t-elle comblé les attentes? Nous étions avec Mme Samake Fatoumata Traoré, ancienne volontaire des Nations Unies au Burundi, Dr Souleymane Diallo, spécialiste en relations internationales, et Cheikh Oumar Soumanou, spécialiste en diplomatie, paix et gouvernance. Ce débat vous a été présenté par Imran Akil Omega. Merci de l'avoir suivi. À demain pour un autre débat.